Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ouais, oui, tiens.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un monstre de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler du Predator. Mais avant tout, il sort d'où ce Predator ? Bah, d'une blague qui a fait rire le tout Hollywood dans les années 80. Rocky IV vient de sortir et on se demande qui il va bien pouvoir combattre dans l'opus numéro 5. Pourquoi pas un extraterrestre, tant qu'on y est. Et pourquoi pas, se disent les frères Thomas. Voilà comment est née une icône de la SF dans les années 80. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais la base de départ est là. Joel Silver va les prendre sous son aile et va monter le projet. Joel Silver est un producteur très prolixe. On lui doit, entre autres, la série des Armes Fatales, les Die Hard, Matrix. C'est simple. Si vous avez vu ne serait-ce qu'un film d'action dans les années 80, 90 ou 2000, vous avez quasiment à coup sûr vu une production Joel Silver. C'est Arnold Schwarzenegger qui sera le personnage principal du film, qui sera réalisé par John McTiernan. Et une musique de Alan Silvestri. Là, c'est bon, on a dû cacher toutes les cases du blockbuster américain des années 80. Mais sinon, ça raconte quoi ? Nous sommes en Amérique centrale dans les années 80. Un commando de barbouze est engagé par un agent de la CIA pour aller chercher l'équipage d'un hélicoptère qui s'est écrasé dans la jungle. Et pourquoi des barbouzes pour une opération de sauvetage ? C'est que l'hélico est tombé du mauvais côté de la frontière. Dommage. Et une équipe officielle ne peut se permettre cette opération. Voilà donc tout ce beau monde qui est téléporté au beau milieu de nulle part et qui va commencer à crapahuter pour retrouver ce fichu appareil. Il l'a retrouvé assez facilement, mais... il y a forcément un mais. L'hélico a une configuration étrange et pour l'anecdote, les pilotes sont toujours à bord, mais morts. Des passagers, pas une trace. On repart à la chasse et... Voilà les gars qu'on recherchait tellement. À un détail près, ils sont pendus par les pieds et totalement dépecés. Une fois la surprise de la découverte passée, les soldats vont rechercher les auteurs de cette boucherie. Le camp des méchants est trouvé, détruit et les méchants tués, à l'exception d'une femme. Une guerrière qui sera interrogée une fois rentrée à la base. La mission, si elle n'est pas une franche réussite, n'en est pas moins terminé. Mais, l'hélicoptère qui devait les récupérer ne viendra pas jusqu'à eux. Donc c'est reparti pour une balade dans la jungle. Et pas question de lambiner, les copains des méchants ne sont pas contents et essayent de les poursuivre. Le crapahutage dans la jungle, avec en plus une prisonnière pas très coopérative, s'avère plus compliqué que prévu. Et puis, il y a un truc. Ils ne savent pas quoi, mais ils ont l'impression d'être observés, suivis. Le pistard du groupe en est certain, ils sont suivis à la trace. Et leur poursuivant est totalement invisible. Ce qui va rendre leur progression plus difficile encore, car rythmée par des arrêts fréquents pour évaluer la situation. C'est lors d'une de ces haltes que la prisonnière va s'échapper, en vain. Elle sera vite rattrapée par un des soldats. Il sera la première victime. Mais la victime de quoi ? C'est un peu là tout le problème. On en est à 40 minutes du film et on n'a toujours pas vu l'être, la chose, qui les traque et qui maintenant les tue. Ça vous rappelle pas un autre film ? Oui, bien sûr, mais on y reviendra un peu plus tard. À partir de là, ça va commencer à défourailler sec, dans le vide. Parce que c'est bien beau de savoir qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui veut vous trucider, mais si la chose ou la personne en question est invisible, c'est un poil plus compliqué. Et c'est ce qui va se passer pour la prochaine victime. Le soldat en question se fait tirer dessus dans le dos. Oui, c'est moche, mais dans ce domaine, tous les coups sont permis. Et sa cage thoracique explose, littéralement. C'est un film violent, bien sûr, très sanguinolent. Son meilleur ami arrive juste à temps pour voir une vague silhouette dont seuls les yeux se détachent de la végétation. Des yeux brillants pour l'anecdote. Donc la colère, vengeance et tir de barrage. Le reste de l'équipe va tout simplement raser un bout de jungle. Et tout ça pour rien. S'ensuit la litanie logique, voire prévisible, des décès des militaires. Schéma classique dans ce genre de film, que l'on peut considérer comme un huis clos, même s'il se déroule dehors. En même temps, la densité de la jungle parvient à nous faire ressentir ce sentiment de confinement, et par là même ce manque de visibilité à longue distance. Déjà qu'on n'y voit pas à 50 mètres, mais si en plus le truc qui nous chasse peut se camoufler, il y a comme un léger déséquilibre. Et c'est là toute la logique de la démarche. Le chasseur va mettre toutes les chances de ce côté pour parvenir à ses fins. Après, on peut discuter du fair play de la chose, ok. Mais dans ce cas, ce ne sont pas les remords qui étouffent le prédateur. Et donc, on en est où là, du décompte des victimes ? Là-bas, 4 de plus. Donc là, il reste Dutch, le héros blessé, et la guerrière, la jeune femme en détresse. Le faire-valoir du héros, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. C'est du second degré, hein, je précise. Dutch décide d'envoyer la jeune femme rejoindre l'hélico qui doit les rapatrier, et lui, en bonhomme, il va combattre la chose ou la personne qui a réduit son équipe de barbouzes à un gros tas de viande froide. Comme si lui, tout seul dorénavant, sans aucun équipement autre qu'un couteau, allait pouvoir poutrer un adversaire toujours invisible et surarmé. On va mettre ça sur l'esprit d'entreprise à l'américaine. La confrontation tourne au cours et Dutch se fait latter la gueule. Il ne doit sa survie qu'à la boue qui le recouvre et qui le cache à son adversaire. Le deuxième round n'est guère plus en faveur de notre héros. Mais l'extraterrestre, oui, vous vous en doutiez qu'il n'était pas humain, reconnaît en lui un vaillant combattant et décide de régler l'affrontement d'une manière plus loyale. Il se débarrasse d'une partie de son équipement et aussi, mais surtout, de son casque. Et là, on découvre enfin à quoi ressemble ce prédateur. Et comment dire, la première fois, ça fait un choc. D'allure générale, il est de forme humanoïde. Pour la tête, c'est pas la même. Enfin, la répartition des organes, c'est similaire, mais c'est leur aspect qui est plus exotique. Le sommet du crâne est recouvert d'une carapace. Il n'a pas de cheveux, mais des sortes de dreadlocks sur tout le tour du crâne. Les deux yeux sont très enfoncés dans leur orbite. Il n'a pas de nez. Il a une bouche généreusement fournie en dents acérées, et autour de la bouche, des mandibules. Quatre mandibules. Là, on se rapproche plus de l'insecte ou du crustacé. C'est particulier. Ce qui fera dire à Dutch...
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
L'ensemble dégage une impression d'agressivité. Ah non, c'est même plus que ça, c'est de la brutalité. Une posture permanente de « toi, je vais te défoncer ». Tout dans ce visage respire la menace. Et attention, divulgachage dans 3, 2, 1, revenez dans 15 secondes. L'affrontement final voit la victoire de Dutch, sans réelle surprise, c'est quand même lui le héros. On ne déconne pas, à l'époque, le héros gagne tout le temps. Vive le cinéma testostéroné des années 80. J'ai commencé à décrire le Predator. Faisons plus ample connaissance avec celui-ci. Comme je l'ai dit, il a une allure humanoïde, mais il est plus grand que les humains. Le Predator fait partie d'une société organisée en un système de castes. Comme dans beaucoup de tribus, et même encore aujourd'hui pour en faire partie, les jeunes prédateurs doivent réussir à un rite de passage qui fera d'eux des guerriers, encore novices, certes, mais c'est déjà un premier palier. Il existe plusieurs versions de ce rite de passage, et l'un d'eux consiste en un affrontement avec un alien. Oui, l'alien, le xénomorphe, c'est-à-dire à quel point ils sont redoutables. Il est intéressant de faire une comparaison entre ces deux monstres charismatiques de la SF. Là, on est sur deux approches différentes. L'alien est un animal, nous le sommes tous ok, mais un animal dans le sens qu'il ne vit pas en société, mais plutôt en meute. Son comportement est régi plus par son instinct que par un cadre social. Il est agressif naturellement. Tout être vivant est une proie pour lui. Le groupe est dirigé par une reine, et son système d'incubation est un poil intrusif. C'est un parasite. Mais il est loin d'être idiot. En meute, il peut élaborer des tactiques pour attraper ses proies. À côté de lui, le prédateur est presque un gentil. Presque, j'ai dit. Ce n'est pas la même approche. Le prédateur est plus un chasseur réfléchi. Il cherche des trophées qui témoigneront de sa combativité et de son courage. Il collectionne même les crânes de ses victimes dans un cabinet de curiosité. Autre différence avec l'alien, le prédateur est plus porté sur la technologie. Des griffes dignes de Wolverine, des lances, une large gamme de projectiles, un peu comme le disque frisbee orné de lames courbes. Il est bien celui-là. Mais mon préféré reste le disque acéré, semblable à un disque d'athlétisme qui agit comme un boomerang. Et j'allais aussi oublier le filet. Lancé lui aussi, qui vous plaque contre un mur et qui va lentement mais sûrement vous lacérer la peau. Le Predator a sur lui également bien d'autres équipements, comme une trousse de premier secours. Et oui, ça démontre une nouvelle fois la différence avec l'alien. Ce dernier agit comme un animal sauvage, alors que le Predator agit plus comme un être civilisé, avec beaucoup de guillemets sur civilisé. S'il est blessé, le Predator va se soigner pour continuer sa mission, sa chasse. Comme pour l'être humain, il a conscience de sa propre existence et a un certain instinct de conservation. Il se repose plus sur la technologie, mais n'allez pas croire que sans son équipement, il ne vaut rien. Contre un alien, ça ne va pas être simple. Le xénomorphe est un adversaire redoutable, taillé pour le combat au corps à corps. Mais contre un humain, sa constitution et son entraînement lui donnent un gros avantage. Et cerise sur le gâteau, si le prédateur sent sa fin proche, il va déclencher une bombe d'une puissance énorme, soit pour emporter avec lui ses adversaires, ou pour empêcher que l'on récupère le matériel sur son cadavre. Il y a toutefois un point commun entre le prédateur et l'alien, l'hybridation. Lorsqu'un embryon d'alien est implanté dans un être vivant, à son corps défendant bien sûr, il arrive que le bébé alien qui en ressort ait intégré des particularités de son hôte. Le prédateur, lui, recherche les points forts de son ennemi pour se les approprier en combinant les deux ADN. Même but, mais deux approches différentes. A noter que le prédateur a une éthique. Oui, je sais, ça peut faire sourire. Mais c'est un chasseur réglo. Il n'attaque que des proies dignes de ce nom. Il ne va jamais défoncer une personne désarmée, pareil pour une femme enceinte. Il préserve la ressource. Le prédateur est écolo. Sans rire, lui, il a compris qu'on n'attrape pas tout ce qui se présente et qu'on doit laisser une chance au vivier de proie de prospérer. Sinon, il n'y a plus rien à chasser. Moi, je dis ça. Une suite sort en 1990, soit 3 ans après le premier. Ce film est réalisé par Stephen Hopkins. Et directement, on se retrouve à survoler la jungle. Pendant 10 secondes, le temps que l'hélicoptère prenne de la hauteur et laisse apparaître le Los Angeles de 1997. Joli film. Et oui, 1997. C'était le futur en 1990. Mais le temps avance, malgré tout, et il rattrape ses futurs hypothétiques et cauchemardesque pour celui-là. La ville subit une canicule sévère et une guerre des gangs tragique. Et on est jeté directement dans le bain. Une rue est transformée en champ de bataille entre la police et les trafiquants de drogue. Ça défouraille dans tous les sens et les policiers tombent comme des mouches. Du côté des trafiquants, ça va, c'est moins l'hécatombe. À croire que la police ne s'est pas visée. C'est à ce moment que débarque notre héros. Schwarzy ? Non. Pour ce numéro 2, on a puisé dans le casting de l'arme fatale. Ah, Mel Gibson ! Cool. Curieux de voir comment ça va se passer la confrontation. Comment ça, c'est pas lui ? Bah, c'est qui alors ? Danny Glover. Le gars qui est trop vieux pour ses conneries. Sérieusement. Bon, ok, admettons. Même si ça surprend au début du film, on se laisse convaincre par la performance. Un flic teigneux, acharné, qui assiste impuissant à une hécatombe au sein des différents gangs de trafiquants de drogue. Au départ, il met ça sur le compte d'une guerre entre clans, mais quand débarque une équipe du FBI pour enquêter sur ces meurtres, son instinct de flic ne le trompe pas. Il y sait quelque chose de plus gros. À la jungle centra-américaine, cette fois le prédateur a préféré la jungle urbaine. Et ce Los Angeles regorge de proies combatives et il va se donner à cœur joie. De quoi bien étoffer son tableau de chasse. Le lieutenant Reagan, le personnage joué par Danny Glover, commence à comprendre que c'est un seul et même tueur qui trucide à tour de bras dans les rangs du crime organisé. Et il veut savoir de qui il s'agit. Il découvre aussi que l'équipe du FBI, eh bien, c'est pas le FBI. Ah bon ? Ah bah ça alors ? On lui révèle que le tueur qu'il recherche n'est pas à sa première expédition et qu'il a déjà fait le coup face à un commando en Amérique centrale, il y a quelques années de ça. Et qu'il s'agit d'un alien. Et que la mystérieuse équipe a les moyens de le piéger. En théorie, parce qu'en pratique, ça ne se passe pas comme prévu. Étonnant. Je vous épargne le divulgachage de ce film, même s'il n'est pas aussi bon que le premier, il a le mérite de faire évoluer le thème du chasseur dans un environnement différent. Idée qui serait issue d'une série de comics parue après le premier film. Le succès mitigé de ce deuxième opus va calmer un peu les envies de suite. Il va falloir attendre 2010 pour le retrouver au cinéma. Ce nouveau film sera réalisé par Nimrod Antal. Predators, avec un S, reprend le schéma de la traque du premier film, mais avec quelques variations. Là, il nous filme Lagardère inversé. Il ne va pas vers ses proies, il amène les proies à lui. Et les élus sont parachutés sur une planète lui appartenant. Mais parachutés, c'est pas une vue de l'esprit. Dès les premières images du film, on les voit tomber en chute libre, et un parachute se déploie automatiquement. Autre différence, les membres de l'équipe ne se connaissent pas. On a entre autres un mercenaire, une tireuse d'élite de l'armée israélienne, un tueur d'un cartel mexicain, un yakuza. Des pointures dans chacun de leurs domaines. Et qui vont devoir s'allier bon gré mal gré pour survivre dans cette jungle, encore une, et qui est totalement inconnue. La trame du film est très proche du premier, avec plusieurs références plus ou moins évidentes. Et comme pour le numéro 2, le personnage principal est campé par un acteur à contre-emploi. Adrien Brody. Mais oui, l'acteur du pianiste. Déroutant, même après Danny Glover. Là aussi, le film ne va pas marquer les esprits. Le casting étant porté par Brody, il ne fait pas le poids avec Schwarzenegger. Au propre comme au figuré. Et on est donc reparti pour une période de sommeil de la franchise, mais moins longtemps qu'entre le 2 et le 3. The Predator, réalisé par Shane Black, sort en 2018. Dans l'émission consacrée à Alien, je vous avais parlé d'un indice de qualité du film par rapport au fait qu'on voyait plus ou moins l'alien. Eh bien, cet indice s'applique aussi à la franchise Predator. Et c'est avec les prochains films que ça va s'appliquer. Le numéro 4 de la série est divertissant. Et c'est pas une bonne chose. Pour moi, un bon film doit faire réagir, provoquer des émotions, positives ou négatives. Il doit vous prendre aux tripes ou au cœur. Ce film-là, il fait rire. Jaune. Un peu d'humour, quelques répliques bien senties, ça rythme, ça désamorce un moment de tension. Là, les blagues désamorcent tout le film. C'est lourdingue, limite concon. Pour résumer simplement, un soldat en mission assiste au crash d'un vaisseau d'un prédateur. Il parvient à récupérer du matériel du prédateur pour prouver ses dires. Ça se comprend. Un Gus vient vous voir et vous dit qu'il a vu un vaisseau extraterrestre. Vous le croyez ou vous le prenez pour un fou furieux? Perso, je vais me méfier. Et là, pareil, personne ne le croit et on l'envoie en psychiatrie. Une facilité de scénario plus tard, le voilà entouré de soldats souffrant de stress post-traumatique et qui vont l'aider à combattre d'abord un et ensuite deux prédateurs. Sur le chemin, ils vont croiser une scientifique qui a été recrutée pour étudier un des prédateurs capturés. Ladite scientifique a été recrutée car elle a envoyé un courrier au président des États-Unis quand elle était gamine. Logique. Toujours la même scientifique qui va se révéler être une guerrière redoutable sans aucune explication. Et toujours cet humour bêta. Bref, c'est un film divertissant. Il y a eu un autre film sur le Predator. Prey. Proie en français. L'histoire se déroule en 1719 et met en scène une tribu de Comanches qui ont maille à partir avec un Predator. Je ne pourrais pas vous en dire plus, je n'ai pas vu, je n'ai pas l'abonnement Disney+. Ça aussi, on pourrait en parler, limiter la diffusion de films et de séries à une seule plateforme. Bref. Un peu plus tôt, je comparais le Predator et l'Alien. Il y a eu deux films qui les ont réunis. C'est à partir de ce moment que ça va vraiment partir en vrille. Alien vs Predator sort en 2004. Un satellite de la Weyland Company détecte une pyramide sous la glace sur une île proche de l'Antarctique. Une expédition est montée pour en connaître l'origine et en revendiquer la découverte. Monsieur Weyland, en plus d'être un homme d'affaires sans scrupules, est un poil mégalomane et veut laisser une trace à la postérité. L'équipe arrive sur place et trouve un tunnel fraîchement percé dans la glace et qui relie la surface au temple qui est situé 600 mètres sous terre. Sans vraiment se poser la question de son origine et de son but, l'équipe l'emprunte pour descendre. Comme ça, pépouze. Le tunnel fait quand même pas loin de 3 mètres de diamètre et il est apparu en moins de 24 heures. Y'a que moi que ça dérange ? Arrivée sur place, l'équipe déclenche par hasard un mécanisme qui sort une reine alien du congélateur. Littéralement. Elle, dans la seconde, elle se met à pondre des œufs, logique, mais sur un tapis roulant. Donc processus logique, œuf, facehugger, xénomorphe, humain mort. Soit ils se font fourrer un alien dans le gosier, soit un prédateur les zigouille. À choisir, je préfère la version prédateur. C'est plus rapide et moins horrible. Et donc, tout ce beau monde meurt. Et une seule survivante fait alliance avec un prédateur pour tuer la reine alien. Terminé, bonsoir. Ce film, c'est du racolage. On agite deux des monstres les plus charismatiques de la SF pour attirer le chaland. Les réunir dans un même film n'est pas un gage de réussite. Perso, j'aime le jambon, j'aime le Nutella. Jamais je n'aurais idée de tremper une tranche de jambon dans un pot Nutella. Ce film, c'est ça, deux trucs sympas mais qui, une fois mélangés, sont dégueulasses. Mais attendez, qu'est-ce que je vois venir là ? Alien versus Predator Requiem. Un Requiem, c'est un chant pour les morts. Le titre annonce la couleur, ce sera un enterrement. Mais pas en grande pompe. Ce film est une insulte au cinéma. Déjà, techniquement, la luminosité générale est très basse. Même en plein jour, on dirait qu'il fait nuit. L'histoire de l'affrontement entre le prédateur et l'alien est noyée dans des histoires sans queue ni tête. Les personnages sont à peine présentés, il y en a beaucoup trop. C'est mélangé avec un teen movie, film et avec et pour les ados. Certaines scènes sont gore sans nécessité. Bref, c'est nul. J'ai perdu 1h40 de ma vie. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la passion de la SF ? Guerrier ultime, avec un code d'honneur, le Predator n'est pas un tueur sans foi ni loi. Certes, il chasse pour le plaisir, mais avec une certaine déontologie. Il est attiré par la violence et par ici, il est servi. Il est agressif et sans pitié, mais il sait respecter un adversaire digne de son rang. On a presque affaire à un gentleman. Presque. Le rencontrer n'est pas une situation d'avenir. Le Predator fait partie du panthéon des monstres de SF. Et encore que le dénommé monstre serait presque lui manquer de respect. C'est un personnage à part entière avec sa personnalité. On ne va pas certes s'en faire un pote, mais on peut apprécier son sens de l'honneur. C'est pour ça qu'il a une place bien à part dans le monde des personnages de science-fiction. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ».